Luca Demeo, je suis ravi de vous accueillir durant l'événement au Hangar Y. Je ne vous connais pas personnellement. Oui. On m'a dit que vous étiez un grand entrepreneur. Évidemment, j'ai fait mon travail avant. J'ai regardé quand même par là où vous êtes passé.
Oui.
C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour discuter un petit peu d'entrepreneuriat ensemble. La première question que j'ai, c'est pourquoi avoir choisi le milieu de l'automobile ?
Ah, mais ça, c'est une très, très longue histoire. En fait, j'étais toujours passionné depuis que j'étais gamin.
D'accord.
Et donc, il y a eu une époque où je vivais en Côte d'Ivoire, quand j'étais gamin. Et donc, le champion italien de rallye à l'époque, qui s'appelait Cavallari, m'a fait faire un tour sur une Lancia Fulvia qui devait aller en compétition le jour d'après. Et là, j'ai été foudroyé par l'automobile. Et j'ai décidé...
Vous êtes tombé amoureux.
Ouais, je suis tombé amoureux.
Alors, je comprends bien qu'on puisse être passionné, mais il y a quand même un fossé entre être passionné, travailler dans le milieu de l'automobile. Comment est-ce qu'en une seule vie, vous êtes passé de passionné à directeur général de l'un des plus grands groupes automobiles au monde?
Bon, mais je pense que la passion, elle compte. Hein, quand il y a beaucoup de gens qui ont perdu le sens de cette idée que le boulot doit être aussi vocationnel. Non, il y a eu une époque où, en fait...
On faisait ça pour le faire, mais il n'y avait pas vraiment
Exactement. Alors que je vois, par exemple, dans la nouvelle génération, que beaucoup de mes fils, leurs copains, etc., sont beaucoup plus motivés par l'idée de pouvoir s'exprimer dans le domaine où ils pensent qu'ils ont quelque chose...
La passion, ça aide, du coup, tenir la rigueur, à pouvoir...
Je pense, ça te donne l'énergie tous les jours. Quand tu es passionné, tu as quand même plus tendance à apprendre, à vouloir apprendre les choses. Tu as une espèce d'instinct naturel qui t'arrive, je pense. Okay.
Donc, vous ne vous en rendez pas forcément compte,
exactement,
en fait.
Exactement.
Cet événement, c'est le premier que vous faites depuis votre retour chez Renault. Ouais. C'est une belle semaine. Comment est-ce que vous vivez la semaine avec ce week-end, le podium quand même de Renault avec Daniel Ricciardo?
Très
Je
bien.
Vous ai vu, j'ai suivi aussi le Grand Prix. J'étais super content. Je me suis dit, je tombe pile poil dans la bonne semaine. Comment vous vivez cette semaine de folie pour votre retour?
Je voulais en profiter pour m'excuser avec les tifosi de Ferrari parce que j'ai exulté quand Daniel a dépassé Leclerc, mais je pense que j'étais là à célébrer plutôt le fait que Renault avance et pouvait prendre des points. Mais c'est vrai que c'était un week-end spécial. Ça faisait 10 ans qu'on ne faisait pas de podium, donc j'ai eu la chance d'être là quand
c'est quand le côté passionné qui parle.
Quand l'équipe a pu atteindre ce résultat qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils ont travaillé beaucoup et je suis content pour eux.
Quel est votre secret? Quelle est votre méthode pour vous organiser au quotidien et quel outil vous utilisez aujourd'hui pour vous organiser, pour justement parvenir à toutes vos obligations?
Il n'y a pas de secret. Je pense que quand on fait un travail à un certain niveau dans des grandes organisations, et là, je ne parle pas comme entrepreneur parce que moi, l'entrepreneur, c'est une autre chose. En fait, moi, je suis un manager de grande boîte. C'est un métier différent. Mais je pense que quand même, quand tu as un certain niveau, il faut avoir beaucoup de discipline.
La discipline qui compte.
Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup la discipline parce que tu dois gérer l'énergie, tes émotions. Je pense que les gens s'attendent de toi un équilibre dans toutes les discussions. Je pense que c'est très important. Pouvoir prendre un peu de recul sur les thèmes et exprimer une tranquillité qui fait que les gens te suivent et qu'ils soient en confiance.
Quelle rigueur du coup vous tenez? Par exemple, il y a un projet à mener ou il y a un objectif à mener.
Oui.
Est-ce que vous allez mettre des points en place toutes les semaines pour que toutes vos équipes et vous avancez sur le même sujet? Est-ce que chacun travaille de son côté?
Ça dépend des choses. C'est clair que les grandes organisations, chez Renault, je pense qu'on a 182 000 personnes, quelque chose comme ça. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Normalement, on a tendance à travailler dans un job comme le mien, toujours avec une centaine de personnes autour qui, après, rayonnent un peu les choses.
D'accord.
Mais moi, je suis plutôt type à aller juste en bas, parler avec les personnes qui font le travail.
Mais c'est là où ça change, surtout réellement les choses. Parce que je trouve que l'erreur aujourd'hui de beaucoup de directeurs et de PDG, c'est de vouloir appuyer un petit peu tout en haut et finalement, les bonnes informations ne redescendent pas au bon endroit.
J'aime pas trop passer le temps dans les réunions, en fait.
D'accord.
J'ai mes petites méthodes du style, j'aime pas avoir trop de monde dans les réunions, pas plus de 10-15 personnes max dans une réunion. J'aime pas faire des réunions très longues. Je demande à faire des réunions de 45 minutes avec une pause d'un quart d'heure.
D'accord.
Et puis repasser. Mais après, tu as des réunions qui sont plus compliquées, plus complexes. Mais ça, j'aime pas passer 8 heures dans une réunion. Ça ne sert absolument à rien. Tu n'es pas lucide, en fait, au final. Donc voilà, on essaie de donner du rythme, d'être toujours à temps, etc. Et comme je disais, il y a beaucoup de discipline dans ça. C'est en fait presque comme pour des athlètes qui font un autre type de choses. Mais il y a de ça aussi.
Pour justement tenir cette discipline, moi j'avais pu parler à ma communauté cette année, j'avais fait une vidéo dédiée sur la surcharge technologique. Aujourd'hui, on a tout le temps des notifications à droite à gauche, notre téléphone sonne tout le temps, on ouvre nos emails, on a les notifications. Ouais. Comment est-ce que vous contrer tout ça?
Bon, ça dépend. En fait, moi, en gros, la seule chose que j'utilise, c'est le smartphone. J'ai pas de.
C'est votre seul outil de travail?
C'est mon seul outil de travail. De temps en temps, quand j'ai besoin de regarder un truc un peu plus grand, j'utilise une tablette. Non, j'utilise une tablette parce que je vois plus. Non, je commence à devenir vieux. Donc, mais c'est le seul truc que j'utilise et j'utilise tous les outils qui maintenant sont à disposition.
Donc les SMS
Les WhatsApp, les chats codés qu'on a, les Teams, les Zoom.
Il n'y a que quelques personnes qui peuvent vous contacter directement. Votre smartphone n'est pas ouvert à toutes les notifications. Je me doute que vous ne recevez pas toutes les notifications quand il y a un tweet sur Twitter, par exemple.
Je reçois tout ça. Mais bon, on est habitué, donc tout le monde. Peut-être pas comme les super jeunes, mais bon,
bien sûr.
Tu as l'intention. C'est vrai que on vit dans un monde qui est un peu un mix entre les vieux trucs, les emails de 3 pages et les tweets de 160 caractères. Mais quand tu mets personne, en gros, quand quelqu'un m'envoie un mail trop long, j'ai tendance à. Donc il vaut mieux
la même chose.
Il vaut mieux aller sur les trucs.
Moi, c'est ce que j'ai conseillé aujourd'hui aux plus jeunes pour avancer.
Ouais.
Si votre idée, elle tient en moins de 8 lignes, c'est que
c'est bon.
Bon.
Ouais.
Au-dessus, c'est bon.
C'est ce que les Américains ont dans le passé appelé elevator speech.
Okay.
Elevator speech, donc c'est un discours que tu dois être capable de faire du premier au quatrième étage. Sinon, t'es mort. Là. C'est un peu comme ça. Mais bon, c'est un peu une réaction à la vitesse de toutes les choses et à la quantité d'informations qui arrivent. Mais bon.
Est-ce que du coup aujourd'hui dans votre quotidien, vous laissez place un petit peu à l'inconnu ou est-ce que tout est réellement timé? Qu'est-ce que vous faites le matin juste après avoir bu votre café?
Non, en fait, il est relativement codé, pas par moi, parce que moi j'ai tendance à vouloir échapper à gérer les choses de façon différente. Mais c'est vrai qu'il y a tout un système derrière qui te force dans un rythme, qui te met toutes les heures dans un casier, dans un outlook, etc. Mais bon, de temps en temps, j'aime bien...
Vous avez des moments décider. Pour vous aussi?
Pas trop.
OK.
Pas trop. Mais de temps en temps, j'ai une idée, je veux descendre dans un atelier ou je veux aller au design, etc. Donc, il y a tout le monde qui me court derrière, qui me dit « ça, c'était pas prévu, on n'avait pas préparé ». Mais moi, j'aime bien y aller. J'aime bien y aller comme ça, un peu...
J'ai eu la chance de rencontrer justement un mentor il y a de ça quelques années.
Ouais.
Et il m'a transmis une phrase qui m'a marqué beaucoup. Choisir, c'est renoncer. Même à mon échelle, en tant que petit entrepreneur, j'ai fait des concessions.
Ouais.
J'essaie d'imaginer, en étant à votre place, par quelles concessions vous avez dû passer. Parce qu'aujourd'hui, notre entourage a beaucoup de mal. Il voit le résultat, mais il ne voit pas tout ce à quoi on a renoncé. Vous venez de me dire à l'instant que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps uniquement pour vous.
Ouais.
À quoi vous avez dû renoncer?
Bah écoutez, je ne veux même pas exagérer la vie qu'on fait. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est des journées qui sont super chargées. C'est vrai que quand tu gères des thèmes complexes, en tant qu'entrepreneur, tu peux être un professionnel de n'importe quel. Mais c'est vrai que tu es toujours là, tu es toujours au boulot en fait, mentalement, ça c'est clair. Non? Mais, bon, après, je fais une vie plutôt normale, je dirais, sauf que...
Vous êtes beaucoup sorti quand vous étiez jeune?
Ça c'est clair. Ah oui, ça c'est clair. À un moment donné, t'as plus envie, mais ça, je suis beau. Ouais, j'ai tout fait ce qu'il fallait faire, mais c'est vrai que, je veux dire, on fait une vie plutôt normale, sauf que on n'a pas trop de temps libre, en fait.
À partir de quand, justement, vous vous êtes imposé cette rigueur dans le travail? Et est-ce qu'il y a vraiment eu un moment crucial dans votre carrière où vous êtes tombé de ce côté-là à vous dire ben, « maintenant, il faut que…
» Disons que dès le début, je me suis retrouvé en situation où j'ai tout de suite engagé dans un rythme de travail assez... Moi, j'ai commencé à travailler en Italie, et puis je suis venu au siège ici de Renault à Paris, quand j'étais jeune. Et puis, je suis parti, j'ai travaillé chez Toyota.
Oui.
Donc, je voyageais beaucoup avec le Japon. Les rythmes de travail dans les boîtes japonaises, ils sont assez demanding, non? Ça fonce, je me rappelle ça. Mais le moment où vraiment ça devient... ça devient ta vie. Peut-être dans le moment où j'ai été nommé directeur général de Fiat, ça c'était 2004, en fait la boîte elle était en gros techniquement en faillite. Donc on a eu une phase assez dure de redressement. Et en fait j'avais un gorilla sur l'épaule. Là. Donc c'est une des plus grandes boîtes de mon pays. En situation très difficile, on devait garder plein de postes de travail. Il y avait une grosse responsabilité. Donc là, je me rappelle, je pense que quand j'ai commencé, la première vague, j'ai fait 300 jours de travail sans m'arrêter.
Mais vous vous en êtes rendu compte à ce moment-là ?
Oui, j'étais mort, mais bon, finalement, on est arrivé. C'était la satisfaction d'avoir retourné un truc. On avait fait le lancement de la 500, toutes ces histoires.
Génial.
C'était bien, c'était génial.
C'était une plus belle histoire.
Donc, bon, peut-être à partir de ce moment, je pense qu'il y a eu un changement de rythme, en fait. Et tu es dedans, et tu es... tu es dedans. Je pense que ça peut être la même chose pour quelqu'un qui fait, un athlète professionnel. Il est dedans, c'est son truc. Et je pense que pour nous, c'est aussi comme ça.
Justement, dans ces moments-là, dans votre carrière, est-ce qu'il y a un moment où vous avez réalisé que vous étiez directeur général avec ce que ça a engendré derrière comme responsabilité ? Est-ce que ça vous a fait peur ou est-ce que vous vous êtes toujours senti prêt ?
Non, tu te sens jamais prêt, en fait.
Ça te tombe dessus ?
Ça te tombe dessus. Je ne me prends même pas trop la tête avec ces histoires. Finalement, j'ai un boulot, j'ai une responsabilité vis-à-vis des gens, de l'organisation. Si tu as un... Comment dire,
Vous avancez,
tu as la sensation que tu as un devoir par rapport à d'autres gens et tu le fais et tu essaies de le faire au mieux possible, mais bon.
Vous avez eu des exemples, justement ? Vous avez eu des mentors ou des gens qui vous ont inspiré ?
J'ai travaillé avec des gens qui étaient mes chefs, qui étaient... d'ailleurs, j'ai eu deux ou trois chefs qui sont plutôt connus dans le monde, dans l'histoire de l'automobile pour être des durs. Et donc, j'ai beaucoup appris. Quand tu es là... Tu souffres, mais après, ça te rend plus fort. J'ai aussi toujours essayé de... Et ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, c'est que le changement te met dans la condition d'être toujours sur la pente de... Non
où et plus on vieillit, plus c'est dur, je trouve, de changer. Moi, c'est bête. Hein. Ouais. À 15 ans, ça ne me dérangeait pas de changer mon planning en deux secondes. Ouais. Aujourd'hui, déjà, je vais y réfléchir, je vais essayer de...
Alors, j'ai encore 15 ans dans la tête.
Génial.
Parce que moi, j'aime bien changer. J'aime bien me retrouver toujours dans cette espèce de learning curve, non ? Des courbes d'apprentissage.
Plus vous êtes stimulé aussi, plus il y a de l'attention et mieux
plus, on... Plus il y a des problèmes compliqués à résoudre, plus je m'amuse, plus je peux apprendre, plus ça m'amuse. Quand il y a des trucs que je ne connais pas, je rentre dedans. C'est un peu... Chacun a sa motivation. Ça, c'est ma motivation, en gros. Une des motivations.
Et justement, avant d'en être là, je suppose que... Personnellement, j'ai déjà eu des échecs et je trouve que ce sujet est super intéressant parce que c'est lorsqu'on échoue qu'on apprend encore plus. Ouais. On veut se relever et qu'on fait mieux. Est-ce que vous avez des échecs auxquels vous pensez et qui vous ont justement forgé aujourd'hui ?
Là, je ne sais pas, parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'ai pas, je ne veux pas dire que je n'ai pas d'échecs. Je pense tous les jours. Non, tu prends des décisions qui ne sont pas les bonnes. Tu prends des décisions sur des choses, sur des personnes. J'en ai eu plusieurs. Je crois, je me rappelle, je raconte toujours cette histoire. J'arrivais de Fiat, je suis allé chez Volkswagen. Et donc, je venais de Fiat et on avait eu énormément de succès avec le lancement de la 500. Et je me rappelle que je me suis retrouvé dans la situation de devoir retravailler sur un produit iconique de la marque Volkswagen qui était la Coccinelle, celle la dernière génération. Et moi, j'étais convaincu qu'on aurait pu rejouer complètement le coup avec la Coccinelle. Mais ce n'était pas le cas parce que, dans l'esprit des gens de Volkswagen, la nouvelle Coccinelle, c'était la Golf. Et donc, il n'y avait pas exactement le même engouement dans l'histoire. Et donc, je me rappelle que j'avais demandé énormément d'argent pour organiser le lancement. On avait fait un truc super intéressant, 24 heures, un lancement entre Shanghai, New York, Berlin. On avait fait un truc de fou. Mais bon, ça ne nous a pas donné les satisfactions. Ce qui veut dire que des fois, l'expérience, c'est un truc très mauvais. Il faut vraiment faire le tri entre les choses. L'expérience, ça aide, des fois, mais il ne faut pas avoir toujours les mêmes réflexes, parce que des fois, tu te trompes.
On a grandi, justement, avec des véhicules qui se contentaient de se laisser conduire.
Oui.
C'était à la limite si on devait tout le temps avoir la manivelle pour ouvrir la fenêtre. Ouais. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton dans les derniers véhicules de chez Renault et on se gare automatiquement.
Oui.
Je me pose la question et j'aimerais vous la poser aussi. Est-ce qu'il reste des choses à innover dans les voitures ?
Oh oui, je pense. Et je pense aussi que quand on regarde l'intégration de la technologie dans les derniers... Bon, moi, ça fait presque 30 ans que je travaille dans l'automobile, mais je vois l'accélération dans les derniers 10 ans. Et peut-être la forte accélération dans les derniers 5 ans dans les boîtes automobiles qui va faire que dans 5 ans ou 10 ans, on va avoir encore des choses très, très surprenantes pour les gens. Je pense, et ce n'est pas seulement une question de powertrain, donc de passer à l'électrique, c'est tout ce qui concerne un peu l'idée de la voiture qui va toute seule ou par exemple de la connectivité. C'est tout un monde qui s'ouvre. On ne connaît pas encore trop bien, on ne sait pas encore quel est le potentiel d'intégrer le véhicule dans le web, dans le réseau. Mais je pense que ça va nous donner énormément de possibilités pour développer des services, des technologies qui vont améliorer l'expérience.
D'accord.
Je pense ça reste un produit assez technologique. Hein. Je veux dire, il faut jamais oublier qu'il y a des pays qui sont très connus pour leur capacité technologique, comme l'Allemagne par exemple, où la recherche et développement qui est faite dans l'industrie automobile, elle pèse pour le 30% du total. Et je peux vous dire que j'ai pas en tête le chiffre en France, mais je pense que même si le poids de l'automobile en France est moindre par rapport à l'Allemagne, je pense qu'on est à des niveaux très importants. C'est-à-dire la beauté de l'automobile, même si on se prend toujours des baffes, qu'on est de la old economy, etc., mais ça pousse énormément la recherche et le développement. Ça pousse énormément. Il y a énormément de choses. Dans 4-5 ans, il y aura plus de valeur dans le software d'une voiture que le hardware. Donc ça change, là, on est en train de pivoter complètement. Donc il faut voir l'automobile comme un vecteur de développement technologique. Il ne faut pas... n'importe quelle voiture a 30-40 ordinateurs dedans.
Justement, par rapport au Chocard qui a été présenté aujourd'hui, quelles sont les caractéristiques qui vous ont le plus impressionné ?
Bon, disons que là, ça, c'est une plateforme qui est assez flexible, qui en termes de dimension nous permettra vraiment d'attaquer le cœur du marché. C'est-à-dire, c'est pas une voiture de niche, c'est pas une voiture hyper chère que personne ne peut acheter, etc. C'est une voiture faite pour l'Européen moyen, ok. Et ça, c'est quand même quelque chose parce que évidemment, on avait vu arriver des voitures électriques très haut de gamme. Inaccessible en termes de prix. Maintenant, la technologie arrive dans le milieu, dans le cœur du marché, et ça, c'est important. Je crois qu'en termes de packaging, on a les ingénieurs. Non, moi, j'étais pas là, donc je peux seulement juger et comparer.
Bien sûr.
Je pense qu'ils ont fait un super boulot de packaging parce que la voiture, elle est relativement courte, qui est bien dans la ville. Elle est grande dedans. Tout ce qui pouvait sortir de l'habitacle, ils l'ont sorti. Entre les proportions extérieures et l'intérieur, on a quelque chose d'assez bien. Donc on peut utiliser complètement l'avantage d'une architecture pure électrique qui est les roues au coin, un capot très court parce qu'il n'y a pas le moteur à combustion. Et donc,
c'est ce qui m'a impressionné aussi dans le design parce qu'on a vu beaucoup de concept cars chez Renault et moi c'est ce que j'adorais avec Lorenz notamment, voir les concept cars, j'étais comme un gamin à chaque fois. Et là j'ai l'impression de retrouver un concept car qui va être dans les mains d'un grand public mais très rapidement finalement.
Très rapidement. Exactement. Et donc, les concept cars, beaucoup de fois, les designers se prenaient des libertés parce qu'ils allaient au-delà de la limite de la technique. Donc, ils forçaient un peu le système. Alors qu'avec une architecture électrique, un des avantages, c'est que tu peux vraiment faire des proportions qui sont et réinventer les formes de l'automobile. Et ça, c'est intéressant si tu le fais. Dans ce cas-là, je pense qu'ils l'ont fait. Après, la voiture, on va le voir, on va avoir énormément de fonctionnalités en termes de connectivité, d'aide à la conduite, ça va être un gadget technologique pas mal.
Toutes les dernières technologies d'aujourd'hui, elles ont été inventées il y a des années.
Oui.
Pour cette dernière question, je ne m'adresse pas au directeur général du groupe Renault, je veux m'adresser à vous, Luca Demeo.
Oui.
À quoi va ressembler la voiture dans 10 ans ?
Bah, ça va ressembler à quelque chose qui est beaucoup plus soft que hard, je pense. Ça va ressembler à quelque chose qui il faudra, comment dire, pourra en fait te permettre une expérience dans la voiture complètement différente. Parce que
jusqu'à aujourd'hui, on a eu l'impression d'intégrer un ordinateur dans quatre roues. Par la suite, ça sera quatre roues intégrées à un ordinateur,
un peu comme
en
ça.
Fait.
Et puis, je pense qu'il y a une autre chose qui est dans la relation entre le véhicule et le contexte.
D'accord.
C'est ça qui va changer beaucoup.
Parce que même les villes vont évoluer, vont devenir de plus en plus connectées.
On doit accompagner ça, on doit essayer de baisser l'impact de l'automobile dans les centres à très haute densité. Il faut qu'on fasse ce travail-là. Parce que moi, je le dis tout le temps, quand j'ai eu des discussions avec des administrateurs locaux, etc. Et moi, je dis, on n'a pas des objectifs divergents. Vous avez envie de libérer de l'espace pour les gens, etc. On pense la même chose, parce que le pire qui puisse nous passer, nous comme industrie, comme dans d'autres industries, c'est que les gens commencent à haïr nos produits. Ça, c'est game over. Donc, il faut qu'on arrive juste avant que cette situation se passe, et que quand il y a quelqu'un qui passe 3 heures par jour dans les bouchons, etc., à un moment donné, peut-être il n'aille pas sa voiture, mais il n'aime pas
les autres.
Et donc, je pense qu'il faut qu'on revienne à retrouver cette relation avec l'automobile comme outil de mobilité personnelle, comme cet instrument de liberté pour toi, mais aussi pour les autres. Et il faut qu'on y travaille. C'est pour ça que je pense qu'il faudra, et on va le faire chez Renault, on va développer des véhicules qui sont adaptés à certains usages spécifiques, justement pour aller chercher une mobilité plus soutenable, efficace, etc. Parce que le système aujourd'hui, il n'est pas nécessairement très efficace. Donc, comme tous les systèmes qui ne sont pas parfaits, il y a de l'espace pour la disruption, si on peut dire comme ça.
Merci infiniment de votre temps. J'étais ravi d'échanger avec vous. C'était super. Merci beaucoup.
Ciao.
Merci.
Merci.